Bonjour, coup de tonnerre aux États-Unis, c'était le week-end dernier, la Cour suprême remet en cause le droit à l'avortement. Ce sera désormais aux États de décider s'ils l'interdisent ou s'ils l'autorisent. Et au moment même où arrive au Parlement français 89 députés du Rassemblement national, dont certains se sont montrés ambigus et parfois plus qu'ambigus dans le passé, justement à propos de ce droit à l'IVG. Alors ce droit est-il en danger en France au point qu'il faille envisager de le graver, de l'inscrire dans la Constitution? Ce sera le débat avec nos trois invités d'aujourd'hui. D'abord, sur le plateau, trois invités en noir, toutes les trois, mais sans aucune concertation. Marianne Niozzi du planning familial, vous nous donnerez donc le point de vue du planning sur, évidemment, cette question sur laquelle votre expertise est de longue date reconnue. À côté de vous, Alban Gaillot, ex-député LREM du Val-de-Marne, et c'est vous qui avez porté tout au long des dernières années, jusqu'en février de cette année 2022, une proposition de loi visant notamment, pas seulement, mais notamment, à étendre de 12 à 14 semaines le délai légal pour pratiquer une IVG. Vous nous raconterez dans quelles conditions ça s'est fait. Alors, en visio, notre troisième invitée en blanc, elle, Cérine Mucchiotti. Alors, ex-députée, vous aussi, LREM du Var, vous trouvez dans votre département. Vous avez été battu le 19 juin dernier par le Rassemblement national et vous êtes à l'origine du rapport parlementaire, lequel a lui-même été à l'origine de cette fameuse loi portée par Alban Gaillot. On racontera tout ça. Enfin, sur le plateau, la troisième dame en noir, Mathilde Larrère. Avec toi, on reviendra sur toute la législation française sur l'IVG après la loi Veil, parce que contrairement à ce qu'on pourrait rapidement penser, la législation ne s'est pas figée en 1975 au moment de l'adoption de la loi Veil. Voilà, alors il sera question de l'IVG, c'est le sujet que nous avions prévu depuis la semaine dernière, mais il me paraît impossible de commencer cette émission aujourd'hui sans traiter d'un autre sujet qui est également à la croisée du droit des femmes et du Parlement, puisqu'il s'agit des rumeurs courant sur le nouveau président de la Commission des finances de l'Assemblée, Éric Coquerel, député insoumis, rumeurs qui ont éclaté au soir même de son élection comme président de la Commission des finances. On écoute Rokhaya Diallo, c'était sur RTL.
Il y a quelque chose qui me revient, sur lequel je voudrais revenir et qui est une question assez sensible, mais et qui a plus à voir avec la personnalité d'Éric Coquerel. Mais moi, j'ai plusieurs sources au sein de LFI et j'ai entendu plusieurs fois des femmes parler du comportement qu'il aurait avec les femmes. Ce sont des choses qui reviennent de manière récurrente depuis plusieurs années. Il y avait eu un article dans Cosette, alors qu'il parlait d'un député LFI sans le nommer. Ce sont des accusations. J'ai conscience du fait que ce soit des accusations, mais je pense que pour un parti comme LFI, qui quand même a dans ses statuts, dans ses positions politiques, l'idée que les femmes en fait doivent être protégées. Je suis très étonnée en fait moi de ce choix.
Alors, Rokhaya Diallo faisait donc allusion à une enquête du magazine féministe Cosette, enquête de 2018, dans laquelle une femme non nommée, anonyme, portait des accusations contre un député à l'époque insoumis, non nommé non plus, des accusations de harcèlement sexuel lourd. Alors, quelques heures après cette accusation par Rokhaya Diallo, le député insoumis Manuel Bompard répondait sur BFM.
Rokhaya Diallo fait référence à un article qui a été publié dans le journal Cosette il y a 4 ou 5 ans, citait un député de la France Insoumise, sans jamais dire lequel, absolument, sans jamais dire qui. Donc je ne sais pas de quel élément elle dispose pour faire le lien avec ce député. Je trouve ça quand même assez curieux que ça soit aujourd'hui, au moment où Éric Coquerel vient d'être élu président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, qu'on se permet de lancer ce type d'accusation. Ce sujet-là, les violences sexistes et sexuelles, c'est un sujet suffisamment sérieux pour que ça ne soit pas sur l'angle des rumeurs, des choses qui circulent sur les réseaux sociaux sans aucun élément concret.
Alors, je pense qu'on ne va pas être trop long sur ce plateau, sur cette affaire, parce que aucun d'entre nous, sauf information contraire, ne maîtrise tous les éléments du dossier. Non, me dit Alban Gaillot.
Je ne maîtrise pas du tout les éléments du dossier. Je pense que dans les parties, il faut faire preuve à la fois d'humilité et d'écoute. Il ne faut pas nier par ce qui se passe. Je pense que LFI fera certainement, regardera et enquêtera en tout cas. Ce à quoi il faut faire attention, c'est il faut croire les personnes qui parlent, il faut les inciter d'ailleurs à parler, il faut qu'elles se sentent en confiance et entourées. Je ne sais pas ce qu'il en est de cette rumeur, voilà, je ne me prononcerai pas, mais je pense qu'effectivement il faut que chacun des partis puisse écouter et entendre qu'il y a quand même des manifestations de personnes qui se sont peut-être senties agressées sexuellement ou d'autres formes.
Mathilde, en tant que historienne, militante féministe et anciennement proche du parti de gauche, qui était l'ancêtre de la France insoumise.
– Non, mais pareil, c'est-à-dire que s'il y a des plaintes et des signalements avérés, évidemment qu'il faut faire quelque chose. Et il y a plusieurs moyens d'agir. Il y a des mesures préventives, retirer des candidatures. Et puis après, s'il y a des plaintes, il y a des mesures qui doivent être prises. Là, je n'en sais pas plus. Moi, j'ai quitté le PG en 2015, donc ça fait un petit bout de temps quand même. Je pense.
Les faits allégués dans l'enquête de Closette sont postérieurs, puisque ça se serait passé aux universités d'été en 2016.
Moi j'y étais pas. C'est surtout, par ailleurs, c'est bien que on parle de toutes ces choses-là. Enfin, c'est des choses qui ont existé dans tous les partis et qui étaient absolument tolérées. Maintenant, on en parle, ça sort. Ça veut dire aussi que, résultat, par la suite, d'autres hommes politiques feront plus attention parce qu'ils savent que maintenant ça sort et ça c'est très positif. Et donc processus, mesure pour écarter tous les agresseurs et évidemment à soutenir.
Et bon à prendre. Céline Mucchetti.
Oui, moi je voudrais juste, évidemment, on ne détient pas les éléments nécessaires sur cette enquête en particulier, mais en revanche, la rumeur fait beaucoup, beaucoup de mal à la classe politique et à l'ensemble des élus de la République. Et donc, il faut vraiment inciter toutes ces femmes à enclencher des démarches officielles, c'est-à-dire le dépôt de plainte, aller auprès d'associations qui sont en capacité de recueillir la parole de ces femmes-là, pour qu'il y ait de véritables procédures. Parce que la rumeur, celle-là comme sur d'autres sujets, contamine la sphère politique et crée une forme de méfiance, de défiance de la part des citoyens envers les élus de la République en tout genre, et que finalement on empathie toutes et tous de ce type d'informations révélées comme ça sur un plateau télé. Je pense qu'il faut toujours prendre le temps nécessaire, le recul nécessaire et enclencher des procédures avant de dire certaines choses et qui ne sont pas encore vérifiées et vérifiables.
Alors, on y reviendra peut-être sur Arrêt sur Image, j'en sais rien, dans les temps qui viennent. Pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que cette rumeur avait couru à bas bruit depuis des années sur les réseaux sociaux, sans jamais être reprise depuis cet article de Closette par des médias institutionnels. Et c'est tout ce qu'on peut dire. Elle était notamment propagée par une militante féministe du nom de Amandine Fouillard, sur les réseaux sociaux, que j'ai tenté de joindre ce matin pour en parler avec elle, mais sans succès. Marianne Niozzi.
Pour nous, c'est assez problématique de poser la plainte comme étant la procédure nécessaire. Dans le monde du travail aujourd'hui, on reconnaît que la parole est déjà en fait un premier pas qui doit être prise en compte, c'est-à-dire que dans n'importe quelle entreprise, la loi prévoit qu'une personne qui est mise en cause soit temporairement écartée en fait, du travail le temps d'une enquête interne, qui n'est pas le processus de justice. Donc je pense qu'il faut entendre aussi toutes les personnes qui travaillent à l'Assemblée nationale, les personnes qui travaillent dans les partis et qui sont tous les jours aux côtés de personnes dont plusieurs témoignages font état de comportements qui peuvent les mettre elles-mêmes en danger. Donc je pense que c'est la première chose qu'il faut faire. Et donc pour moi, en fait, il faut aller un petit peu, quand même, être un petit peu plus précautionneuse que la question de la plainte, dont on sait que c'est un processus qui est extrêmement difficile, qui demande un investissement sur des années, beaucoup, beaucoup d'argent. Suivons, comme dans n'importe quel cas d'espèce, les procédures qui sont là pour protéger les salariés.
Bon, on va s'en tenir là pour ce qui concerne cette émission, n'ayant ni les uns, ni les unes, ni les autres les éléments nécessaires. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est donc l'IVG, et notamment après la décision absolument frappante, même si elle était attendue, de la Cour suprême américaine de transférer la responsabilité d'autoriser ou d'interdire aux États, alors que l'IVG était par défaut autorisé sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Alors, en France, réaction immédiate des mouvements politiques, et alors notamment du mouvement auquel vous avez appartenu, toutes les deux, et où vous appartenez encore d'ailleurs, c'est Céline Mucchiotti, La République en marche, Renaissance, qui a proposé spectaculairement l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Voilà, on le voit là, notamment annoncé par France Info, LREM annonce le dépôt d'une proposition de loi pour inscrire ce droit à l'avortement dans la Constitution française. Alors, ce qui n'a pas tout de suite été dit tout au long du week-end dernier par les médias, c'est qu'un autre groupe, le groupe de la NUPES, le groupe de la Gauche unie, avait fait cette proposition avec quelques heures d'avance sur la Renaissance, et sur Renaissance, mais avec moins de succès médiatique apparemment, puisque la dépêche AFP reprenait essentiellement la proposition de Renaissance, et qu'il a fallu attendre que les réseaux sociaux, notamment...
C'était une proposition dans les promesses de programme, dans le programme de la FI, hein, ça fait longtemps
bien
que
sûr,
c'est rapporté par la FI.
Je raconte de quelle manière ça s'est passé sur les réseaux sociaux. Alors, débat immédiat, faut-il donc graver dans la Constitution le droit à l'IVG? Nombreuses interventions sur les plateaux de télévision tout au long de ces 2-3 jours. Alors, pour, par exemple, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol.
Faut-il graver dans la Constitution le droit à l'avortement?
Oui, il y a deux raisons de le faire, parce qu'on a eu deux chocs, deux électrochocs au cours des 15 derniers jours. Le premier, c'est en France, les résultats du deuxième tour des élections législatives, où on voit bien qu'en fin de compte, ce n'est pas exclu, qu'on ait nous aussi une majorité un jour d'extrême droite, de droite
qui, pour l'instant, rappelons-le, ne remet pas en cause le droit à l'IVG, en tout cas
oui,
par Marine Le Pen.
C'est vrai, mais depuis 48 heures que nous savons ce qui s'est passé aux États-Unis, je cherche vainement les déclarations des responsables de droite ou d'extrême droite qui s'indigneraient ou seraient émus par la décision de la Cour suprême.
C'est vrai qu'hier, sur notre antenne, Philippe Ballard, le porte-parole du Rassemblement national, était un petit peu gêné sur ces questions.
Je n'ai vu pour le moment que des déclarations de gens qui sont des démocrates et qui défendent le droit à l'avortement. La droite et l'extrême droite est muette. Est-ce que c'est le signe d'une trumpisation de la droite française? La question est ouverte.
Alors, contre le fait d'inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG, l'allié d'Emmanuel Macron et ancien ministre François Bayrou.
Plusieurs responsables politiques demandent sa constitutionnalisation, façon de dire, si un jour quelqu'un voulait revenir dessus, ce sera tellement compliqué qu'il en sera peut-être dissuadé. Est-ce que vous soutenez cette constitutionnalisation?
Moi, j'ai une question très bête.
Il n'y a pas de question bête.
Est-ce que c'est utile au pays, en ce moment, d'aller organiser un référendum sur cette question? La règle, c'est que quand on passe par ce mécanisme, il faut que l'Assemblée et le Sénat votent dans les mêmes termes,
ouais.
Et après, le référendum est obligatoire. Est-ce qu'aujourd'hui, franchement, dans l'état où le pays se trouve, avec toutes les questions que nous avons devant nous, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est utile de faire ça? Alors même que, à ma connaissance, aucun courant politique ne remet en cause la loi Veil et ce qu'elle est devenue par les évolutions différentes.
Alors, j'ai envie d'interroger les deux parlementaires, enfin ex-parlementaires, sur cette question-là. Est-ce que c'est utile, selon vous, vous connaissez bien le sujet, vous avez travaillé sur le sujet des mois et des mois, d'inscrire ce droit dans la Constitution?
Alors, est-ce que c'est utile dans le contexte actuel? Effectivement, je rejoins Laurence Rossignol. Il y a un contexte politique qui a évolué. On a vu, effectivement, être élu 89 députés Rassemblement national. Cependant, ce ne sont pas que eux la menace au droit à l'avortement. Il y a aussi une droite conservatrice très puissante en France. On l'a vu lors des débats dans l'hémicycle sur ma proposition de loi.
On y reviendra.
Mais effectivement, il peut y avoir une alliance de droite conservatrice majoritaire un jour pour effectivement remettre en cause ce droit. aujourd'hui n'ont pas exprimé effectivement leur volonté de revenir sur ce droit. Il n'empêche que les propos qu'ils utilisent, cette rhétorique qui est complètement anti-choix, c'est-à-dire culpabilisante pour les femmes, rappelant qu'effectivement on veut se maintenir à la loi Veil, mais alors on reviendra sur l'histoire, mais effectivement, il y a quand même quelque chose.
Ensuite, mais là, vous parlez de qui, ensuite, là vous parlez de parlementaires qui sont actuellement élus.
Ah ben, il y a certains qui ont été réélus. Hein. Oui. Aujourd'hui, ceux qui ont fait obstruction dans l'hémicycle pendant 2 ans de la droite de chez les LR, ils existent encore, ils sont encore élus, ils sont encore dans l'hémicycle. Et je pense qu'ils saisiront l'occasion, s'il leur est donné l'occasion, de revenir sur ce droit.
Là, donc, vous parlez de parlementaires LR. Hein.
Oui.
Non pas RN, mais LR, c'est-à-dire des Républicains.
Oui,
vous pouvez donner 2 ou 3 noms ?
Ben, M. Breton, M. Hetzel, M. Le Fur, qui sont nos 3 parlementaires les plus représentants et les représentants de mouvements comme Marche pour la vie. Et ça, c'est connu. Ouais. Donc oui, ils saisiront l'occasion, effectivement, de revenir sur ce droit.
Et excusez-moi, mais quand vous donnez ces 3 noms, vous pensez que ça se limite à E3 ou qui sont les porte-parole d'une espèce de majorité silencieuse au sein de leur groupe ?
Je pense qu'ils sont, aujourd'hui, leur groupe, sur les débats qu'on a pu avoir sur la proposition de loi sur l'avortement, le groupe, dans son ensemble, les a laissés parler, les a laisser faire obstruction. Donc, en ce sens, pour moi, je pense qu'il y a une majorité silencieuse dans ce groupe qui est effectivement conservateur et qui va s'opposer, si l'occasion lui est donnée, de revenir sur ce droit à l'avortement. Alors, pourquoi c'est important de garantir ce droit à la Constitution ? Parce qu'aujourd'hui, il suffirait d'une simple loi pour revenir sur, ce droit à l'avortement.
Sur la loi
Veil. D'accord ? Par ailleurs, inscrire dans la Constitution, c'est une garantie. Mais il n'y a pas que ça pour garantir le droit à l'avortement. Il faut aussi donner les moyens. Et donner les moyens au planning, donner les moyens au centre IVG. Il faut que les centres IVG partout sur tout le territoire. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un acte symbolique dans la Constitution, il faut encore que le droit à l'avortement soit effectif partout.
Cécile Muciotti, vous avez la même expérience du groupe Les Républicains tout au long de votre parcours à vous.
Oui, ils ont été très violents dans leurs propos lors des débats. Et le groupe, dans sa majorité, les a laissés porter ces propos violents. Mais au-delà de ça, sur l'aspect plus technique, ce n'est pas supprimer ou maintenir le droit à l'avortement avec la volonté de l'inscrire dans la Constitution. C'est une question aussi de paramètres, c'est-à-dire de délai. Effectivement, si on laisse les choses telles quelles, une majorité parlementaire pourrait revenir sur le nombre de semaines pour pouvoir pratiquer une IVG. Et il est là, le danger. Ce ne serait pas de le supprimer, mais bien, je peux donner un exemple, mais qui pourrait une semaine ou deux semaines. Et là, ce serait catastrophique. Donc, c'est pour ça qu'inscrire dans la Constitution, ce n'est pas juste donner la possibilité de pratiquer une IVG, mais c'est l'inscrire dans les délais que nous avons fait évoluer sur la dernière proposition de loi.
D'accord. Alors, ça, c'est des arguments qui plaident en faveur de l'inscription dans la Constitution. Il y a d'autres arguments, je vais me faire l'avocat du diable dans ce débat, qui peuvent plaider contre cette démarche. C'est le fait que constitutionnellement, si on souhaite modifier la Constitution avec une origine parlementaire, c'est-à-dire si c'est des députés qui proposent de modifier la Constitution, il n'y a pas d'autre solution que le référendum. Et un référendum, ça veut dire une campagne de référendum, ça veut dire des émissions dans lesquelles vont s'exprimer les pour, les contre, et les contre avec éventuellement tous leurs excès et un déploiement d'arguments plus ou moins vérifiables. Donc je voudrais juste vous donner un petit échantillon avec la porte-parole de la Manif pour tous. C'était il y a quelques jours, Ludovine de la Rochère.
Ludovine de la Rochère, est-ce qu'on peut dire que les États-Unis sont à contre-courant ?
Alors je ne crois pas du tout que les États-Unis soient à contre-courant.
Concernant les pays développés.
J'entends bien, mais c'est vrai que le politiquement correct en France impose d'être absolument et forcément favorable, et quoi qu'il arrive, à l'IVG. La Cour suprême donne la liberté à chacun des 50 États des États-Unis d'en décider. Oui. Et donc, en fait, c'est
déjà 7 qui ont basculé, et on pense que 26, au final, vont fortement réduire la possibilité.
Ouais. Ce seront les décisions prises par les élus locaux, donc par État. Pardonnez-moi, je trouve que c'est tout à fait respectueux de la démocratie.
Certains États ont même dit qu'en cas de viol, eh bien, la femme, la jeune femme, ne pourrait pas avorter.
Alors, c'est l'éternel sujet du viol. D'abord, il faut savoir que, d'abord, ce sont...
Il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie.
Mais on dit toujours le viol. Le viol ne représente, parce qu'en fait, c'est même scientifiquement quelque chose qui n'est pas tout à fait expliqué, en cas de viol, malheureusement, quand il y a viol, la survenue de grossesse est très rare. Plus rare que en moyenne dans un rapport sexuel.
Elle est plus rare, mais ça existe.
D'abord, sur le fond, cet argument, que je veux dire que personnellement, j'entends pour la première fois qu'en cas de viol, le risque de grossesse est plus rare. Est-ce que c'est un argument que vous avez souvent entendu dans la bouche des adversaires de l'IVG? C'est un argument que vous découvrez là, aujourd'hui, sur ce plateau, pour la première fois?
Je l'avais déjà entendu de la part d'adversaires de l'IVG américains. Je pense que ça soulève un point qui est très important, c'est que les anti-choix français n'ignorent pas l'arsenal des argumentaires américains, ni celui de toute une nébuleuse internationale qui inclut des Italiens très actifs, etc. Et tous ces arguments-là, en fait, ils rebondissent d'un pays à l'autre dans un mouvement qui finalement est très...
D'accord, mais excusez-moi de vous demander ça, mais il y a un début de commencement, de fondement statistique à cette information ou ça repose sur rien?
Absolument pas.
Rien du tout. Non mais Mathilde, tu es historienne. je pose une question scientifique. Non, rien. Et pareil, vous avez fait de nombreuses auditions, oui. Des pros, des anti, etc. Vous avez déjà entendu ça?
Oui, j'avais déjà entendu ça. Et puis, il faut savoir qu'effectivement, il y a de toute façon une porosité des mouvements conservateurs qui sont très puissants. Les lobbying sont très puissants. Ouais. Et donc, la rhétorique, elle se répand partout. Ouais. Donc oui, on l'a entendu.
Et alors, on sait d'où ça vient? Comment ça fait?
C'est comme tous les arguments comme ça qui sont un peu sortis de leur chapeau, qui sont faits exprès exprès pour choquer aussi, exprès pour stimuler, exprès pour dire vous avez, c'est pas très grave, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais c'est des arguments qui tiennent pas.
Cécile Mucchiotti, vous en avez entendu beaucoup des comme ça? Parce que vous aussi, vous avez mené des auditions nombreuses avec toutes sortes d'intervenants.
Oui, et puis même dans l'hémicycle, avec, si vous voulez, des informations qui sont portées par des scientifiques, par des médecins, et colportées par des parlementaires, disant par exemple, et je ne sais pas si tu te souviens, Alban, mais c'était terrifiant, que pour pouvoir pratiquer une IVG à 14 semaines de grossesse, il fallait écraser les os crâniens du fœtus. Voilà, ce sont des informations qui circulent très rapidement, qui ont une source qui paraît finalement entendable par les gens parce que c'est un praticien. Et là, il va falloir que nous, on sorte les contre-arguments, alors, si vous voulez, nécessaires.
Alors, les spectateurs n'ont peut-être pas tout à fait entendu, mais sur cet argument donné par les antiques, à 14 semaines, pour pratiquer une IVG, à 14 semaines, il faut écraser les os crâniens du fœtus, vous avez dit, c'est pas faux.
Alors, c'est pas faux, pourquoi? Parce qu'en France, on est très mal formés et on n'a pas le matériel adéquat. Alors que dans les autres pays qui ont des délais beaucoup plus longs, le matériel est adéquat, donc la cannule est plus grosse, et donc du coup, il n'y a pas à... Une sorte de cannule qui est d'aspiration, en fait.
Ah, oui.
D'accord, le fœtus est plus gros, donc il faut une plus grosse cannule. Donc dans les pays comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni, il y a effectivement du matériel adapté, et donc il n'y a pas besoin de faire, effectivement, de pratiquer des actes, effectivement, de soit dilacération des chairs, soit d'écrasement...
Comment vous avez dit sur les chairs?
Dilacération des chairs.
Dilacération.
C'est un mot que j'ai appris pour le dire dans l'hémicycle. Dilacération des chairs.
Dilacération. C'est quoi?
C'est en fait le déchirement, quoi.
D'accord.
Voilà. Donc c'est provoqué par l'aspiration et que voilà, il faut effectivement, c'est plus compliqué pour les gynécologues ou les sages-femmes à terme de faire ces actes parce qu'effectivement en France on est mal formé et on n'a pas le matériel. Donc quand je vous disais des moyens, c'est qu'aussi on a besoin que la France s'équipe et forme ses gynécologues et ses praticiens aux meilleures techniques. Et moi je voudrais revenir sur ce qu'a dit Cécile. Effectivement on a entendu des arguments et le plus fallacieux que j'ai entendu, c'est le fœtus qui reculerait devant la sonde d'aspiration, pour pas reculer, et il reculerait parce qu'il verrait le danger de mort.
Attendez, qui vous a sorti ça?
Ça, c'est dans l'hémicycle, Les Républicains et Rassemblement
National. En séance?
Oui, en séance.
En séance, inscrit au PV?
Certainement, vous pouvez même regarder le fœtus qui suce son pouce, cité par Ménard, par exemple.
Emmanuel Ménard, l'épouse. Ouais. Oui, le fœtus qui suce son pouce. Ouais, ça figure au procès-verbal de la séance.
Tout à fait.
D'accord. Mathilde, tu voulais...
Non, mais moi, ça ne m'étonne pas du tout, parce que pour avoir travaillé sur des débats plus anciens, des trucs comme ça, mais il y en a tout le temps, enfin... Mmh. Avec une confusion permanente entre un embryon et un fœtus, oui. Des images de fœtus qu'on 6 mois, c'est pas du tout la même chose. C'est très souvent. Et dans le cas, là, tout se mêle, parce qu'il y a plein d'éléments. On pourrait faire un bingo sexiste dans ce que disait, je vais mal prononcer son nom, mais
Ludovine de la Rochère.
Voilà, je l'aurais bien prononcé, ouf. Parce qu'il y a cette espèce de délire qu'on n'est pas enceinte quand on est violée. Si, à partir du moment où il y a eu pénétration, éjaculation, il y a le risque d'être enceinte, point barre. Mais ce qu'il y a derrière, c'est comme on ne serait enceinte que parce qu'on le veut. Exactement. Donc c'est ça qui est complètement dingue. Donc si
plaisir, en fait,
c'est ça. C'est que d'un seul coup en fait s'embarque la culture du viol. Et c'est ça qui est doublement dangereux dans ce qu'elle vient de dire. Parce qu'au bout du compte, bon, si elle est enceinte, bah, elle va le garder parce qu'en fait elle le voulait.
Tous ces arguments sont aussi là pour culpabiliser les femmes.
Exactement.
Et quand on rappelle les faits, moi je suis toujours choquée quand j'entends encore des politiques qui disent que l'avortement est un drame en citant. Effectivement, Simone Veil. Simone Veil, c'est en 1974. C'est une ministre de la Santé. Quand elle monte à la tribune, elle va légiférer parce que c'est une mesure de santé publique, parce qu'il y a des femmes qui meurent. Et donc, elle va utiliser des propos qui sont, elle, ce qu'elle ressent, elle, ce qu'elle vit, elle, ce qu'elle veut défendre. Je crois qu'aujourd'hui, en 2022, rappeler encore une fois que l'avortement est un drame, je m'oppose à ce type d'argument. L'avortement est une solution pour toutes les femmes qui en ont besoin.
D'accord. Alors, on va revenir sur cet argument de l'avortement qui est un drame, qui a notamment été utilisé par un responsable politique que vous connaissez peut-être un peu, qui s'appelle Emmanuel Macron, qui a été le fondateur du mouvement auquel vous avez
appartenu. Qui a dû avorter plein de fois, en plus, monsieur, je suis sûr.
Qui a été le fondateur du mouvement auquel vous avez toutes les deux appartenu. On va revenir aussi sur la loi Veil. Mais alors, je voudrais, avec toi, Mathilde, que tu nous racontes, avant qu'on parle de la proposition de loi d'Alban Gaillot, le parcours législatif de l'IVG depuis la loi Veil. Alors, ce que tout le monde a en tête, on vient de voir l'image de Simone Veil en 75 à la tribune, c'est ça. Mais depuis, il s'est passé plein de choses, plutôt dans le sens de l'élargissement du droit à l'IVG, il faut le dire.
Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que la loi Veil, elle comportait un grand nombre de limites et de garde-fous qui étaient des concessions. Enfin, il ne faut pas oublier que quand Simone Veil présente sa loi, c'est une majorité de droite. Elle sait qu'elle va avoir le vote des députés de gauche. Il y a eu un débat là, pour savoir qui avait donné l'avortement, la gauche ou la droite. Bon, là, les députés de gauche ont, dans leur quasi-unanimité, pas tous, mais voté en faveur de la loi, mais il lui fallait aussi des votes de droite. Et par ailleurs, elle n'était pas, elle n'est pas du MLF, Simone Veil. Donc, elle avait une conception de l'avortement avec des garde-fous. Et donc, dans la loi, il y a un certain nombre de garde-fous que je vais rappeler. Alors, à l'époque, c'était 12 semaines d'aménorrhée ou 10 semaines de grossesse. Donc, le délai était plus court. Une IVG ne pouvait être pratiquée, je cite, que dans un établissement d'hospitalisation publique ou privée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, alors là, il faudrait que je détaille, mais avant, c'était mis en place une autre forme d'avortement dans les plannings familiaux, notamment, qui ont joué un rôle très important. C'est les premiers avortements par aspiration, dont Alban a parlé rapidement, et qui étaient aussi des avortements, donc pas dans un milieu médical, en sororité, en fraternité, des groupes de femmes, des groupes de parole, des avortements à plusieurs, et vraiment, on dit en self-help, donc beaucoup plus respectueux. Et c'est ça aussi.
On avait déjà parlé sur ce plateau il y a un certain temps, ce qui avait provoqué un certain nombre de réactions.
Oui, et c'est ça aussi, la loi Veil met fin à ça, puisque l'avortement est désormais autorisé, mais il est médicalisé, placé dans ces établissements. Or, là où les choses se compliquent, c'est que dans la loi Veil, un médecin peut donc, c'est la clause de confiance, refuser de pratiquer un avortement, mais un directeur d'hôpital...
De conscience. T'as dit confiance.
Ouais, de conscience. un directeur d'hôpital ou le CA d'un hôpital pouvait refuser qu'on pratique des IVG dans l'établissement. Alors, résultat, donc on pouvait avoir des hôpitaux sans. Mais le problème, c'est qu'il y a un autre article qui dit, on va le voir, mais qu'aucun établissement hospitalier ne pouvait dépasser pour une année un pourcentage de 25% d'interruption de grossesse. Résultat, vous avez des hôpitaux qui n'en pratiquent pas, et un hôpital ne peut avoir un pourcentage de 25%. Donc vous pouvez se retrouver dans une situation où il n'y avait pas assez d'offres. pour pratiquer les IVG.
Attends, je l'interromps une seconde. Qu'est-ce qui justifiait, par exemple, une restriction comme celle-là ? Pas plus de 25...
Parce qu'ils avaient peur, dans les débats à l'époque, ils avaient peur qu'il y ait des services qui se transforment en avortoir. Enfin, c'était le terme de la droite à l'époque, et des établissements qui ne servent qu'à faire des avortements. Et c'était quelque chose qui avait résonné dans le débat public et dans l'hémicycle, et donc, pour rassurer, on avait mis ça. Mais c'est un vrai garde-fou, hein, parce qu'on va y revenir. De fait, hein, il n'y a pas eu assez d'offres. Autre limite, ça, c'était pas remboursé par la Sécurité sociale, avec une possibilité de demander la gratuité pour les plus pauvres, mais avec ce que ça implique de dossiers et aussi de possible humiliation de montrer sa situation financière. Autorisation parentale pour les mineurs. Il fallait aussi, quand on était étrangère pour avorter, fournir un titre de séjour. Hein. Ils ne voulaient pas devenir, disait-il, comme la Hollande ou l'Angleterre, où c'était beaucoup plus facile. Et surtout, il y avait deux entretiens qui étaient pensés comme dissuasifs et séparés d'une semaine. Un premier entretien et deuxième, où on informait la femme qui voulait interrompre sa grossesse des risques de l'opération. Ça peut être un peu inquiétant. On énumérait les droits sociaux si elle voulait mener sa grossesse en terme et on l'informait sur les possibilités d'accouchement sur X et l'adoption. Donc on essayait quelque part de la dissuader. Et comme c'était une semaine, hein, il y avait toujours le risque qu'on sorte du délai. Parce que maintenant, ouais, voilà, on pisse sur le petit machin, on voit les deux barres, c'est pas le Covid, c'est on est enceinte. Hein. Mais à l'époque, on savait pas tout de suite, hein, au bout de quatre semaines d'aménorrhée, si on était enceinte. Et puis, interdiction absolue de la publicité, sauf publication médicale. On pouvait pas dire que tel médecin ou tel hôpital pratiquait des avortements. Or, comme vous l'avez vu, il n'y en avait pas beaucoup. Bah, ça compliquait à nouveau les choses pour les femmes. Et dernière chose, c'était une loi temporaire pour 5 ans. Il fallait la remettre devant l'hémicycle en 79. Donc c'est un texte de compromis. Évidemment, les féministes on a crié victoire, hein, parce que au moins c'était dépénalisé, mais c'était un IVG médicalisé et avec donc ses limites.
Okay. Toutes ces restrictions qu'on voit.
Et elles sont réelles. Hein, entre 75 et 79, régulièrement, il y a le MLF ou Choisir ou le MLAC ou le Planning qui publie des tribunes en disant il y a toujours des femmes qui sont obligées de partir à l'étranger parce qu'il n'y a pas assez d'offres, ça ne suffit pas. Bon, 79, ça revient à l'Assemblée. C'est la ministre déléguée à la condition féminique, Monique Pelletier, qui pose le projet. Elle va
toujours une gisgardienne.
Ouais, et elle va reprendre exactement la loi Veil sans changement. Alors le débat, ça va être entre la gauche et la droite, hein, sur des limites, la droite demandant un certain nombre de limites à la loi Veil, et à l'inverse, la gauche qui réclame des améliorations, passer à 12 semaines, sécurité sociale, pas d'autorisation parentale. Ce qui a surpris, c'est que, enfin, moi ça ne me surprend pas, mais ça a surpris certains éditorialistes de l'époque, notamment Serge Julie qui dans Libé disait « Oh là là, il n'y aura rien, le féminisme c'est fini », écrivait Serge Julie en octobre 79. Eh bien pas du tout, il y a eu une intense mobilisation féministe avec le 6 octobre, une énorme manifestation de dizaines de milliers de femmes de partout en France. On a un extrait là qui va passer, d'ailleurs on va parler du planning aussi.
En 1973, la bataille de l'avortement a fait descendre les femmes dans la rue. Mais cette fois-ci, elles étaient plus de 50 000 à défiler de Denfert-Rochereau au Champ de Mars. Une marée humaine de femmes de tous âges, de tous milieux, souvent accompagnées de leurs maris et enfants. Elles sont aussi venues de Toulouse, de Tarbes, de Besançon ou de Quimperlé.
Pourquoi vous venez de Quimperlé ?
Et parce que ça fait 5 ans qu'on lutte à Quimperlé pour avoir un centre d'IVG et on se cogne sans arrêt à des blocages.
Ah, je suis tout à fait solidaire. Je trouve qu'il est urgent d'agir.
Voilà, j'y étais avec ma maman. Moi, je m'en souviens un tout petit peu. Bon, voilà. Alors là, il n'y avait pas de grand risque, hein, de suppression de la loi Veil, mais ce débat a été important. Bon, finalement, le texte est passé, sans changement net, d'ailleurs, par rapport à 75, avec juste, maintenant, il ne pouvait pas y avoir aucun service qui offrait des avortements dans les hôpitaux. Donc, c'est trucs très techniques, mais d'offres de...
Il ne pouvait pas, ni il y en avoir aucun.
En fait,
aucun.
Si un chef de service gynéco refusait... Tout hôpital devait dans un autre service ouvrir. Voilà. Bon. Alors, Mitterrand, ensuite, est candidat, je vous l'apprends rien. Dans les promesses de campagne, il y a juste écrit « Les conditions d'obtention de l'IVG sont revisitées », c'est tout. Donc, c'était quand même assez léger, mais enfin, bon, bref. Hein. Et en fait, c'est à nouveau une femme hein, qui a porté des améliorations, c'est Yvette Roudy, qui était ministre des droits de la femme, à l'époque, c'était au singulier, en 1981. Et elle s'est battue pour le remboursement médical de l'IVG. Eh bien, ça n'a pas été facile, parce qu'elle a eu des oppositions au sein même de son gouvernement, hein, Mauroy, et même le président Mitterrand, qui a entraîné un blocage présidentiel, ce qui fait que la loi n'est passée finalement que le 31 décembre 1982. Et encore, le remboursement comme principe était acté, mais ce n'était pas sur les fonds de la Sécurité sociale, c'était sur des fonds prélevés sur le budget général, avec une fragilité, un risque hein, de ça. Alors ensuite, il y a un autre grand débat, c'est celui sur l'adoption de la pilule abortive RU486, qui a été mis au point en 82 et qui a mis du temps à être adoptée, avec des attaques complètement dingues. Alors j'ai sélectionné une attaque particulière de quelqu'un que je n'aime particulièrement pas, le professeur Lejeune, qui parlait de pesticides anti-humains, et voyez ce qu'il disait sur la RU486.
« Ce produit tuera plus d'êtres humains qu'Hitler, Mao Zedong et Staline réunis. »
Voilà. Rien que ça. Bon, ça a été autorisé finalement en 88. Avant cela, 86, la droite était revenue au pouvoir et son retour au pouvoir a déçu les anti-avortements car Jacques Chirac, hein, qui avait été contre le vote de la loi en 79, hein, avait dit cette fois clairement qu'il n'y aurait pas de remise en cause de la loi Veil. Donc privé d'appui parlementaire, les anti-avortements vont se replier sur l'extrême droite. Et là, on va avoir un nouveau, parce qu'il n'existait pas avant et qui apparaît à ce moment-là, c'est le recours à des stratégies violentes, inspirées des États-Unis, une fois de plus, comme quoi ça circule quand même, avec les commandos anti-IVG. Alors on n'aura jamais en France la violence qu'il y a pu avoir aux États-Unis, mais des groupes comme SOS, tout petit ou plus violent, la Trêve de Dieu, sont allés, comme on le voit là, jusqu'à se s'attacher hein, dans les services hospitaliers qui pratiquaient des avortements, détruire du matériel et agresser, insulter les femmes qui voulaient avorter. Des commandos qui ont eu le soutien de l'extrême droite française et des catholiques intégristes, de la droite conservatrice et des protestants fondamentalistes aux États-Unis qui les finançaient. C'est le retour de la gauche qui permet, qui va mettre fin à ça avec l'adoption de la loi Véronique Neyertz, secrétaire du droit des femmes cette fois, en décembre 92 et qui crée un délit spécifique d'entrave à l'IVG. Donc les commandos ont continué, mais cette fois ils sont passés en prétoire. Ils ont d'ailleurs été défendus par les avocats du Front National, hein, on voit bien la collision à nouveau, mais au bout d'un moment, ils ont été mis hors de nuire. S'en est suivi la loi Aubry-Guigou, là cette fois on est en 2000, avec des améliorations qui étaient celles que réclamaient les socialistes et les communistes en 79. On a mis quand même un peu de temps avant de les avoir. Donc, allongement du délai à 12 semaines de grossesse. Les mineurs sont délivrés de l'autorisation parentale. L'entretien préalable est désormais facultatif. Et il y a de plus en plus d'obligations pour les hôpitaux d'ouvrir des unités d'IVG. Donc là, il y a un certain nombre d'avancées. Aussi, possibilité de réaliser des IVG médicamenteuses en ville. Donc ça, ça permettait... La question, c'est l'offre. Hein. C'est pour ça qu'il y a une question de moyens.
Cabinet médical, clairement.
Ouais. Oui. Alors, la suivante, c'est la loi Najat Vallaud-Belkacem, 2014, et qui d'ailleurs a été prise dans un contexte, on y reviendra peut-être plus tard, où on a compris en Europe et dans le monde que l'IVG pouvait toujours être menacée, puisque l'Espagne venait, alors qu'il y avait une loi, hein, il y avait un projet de loi en Espagne, du gouvernement conservateur, de retour en arrière, terrible, sur l'avortement. Et Najat Vallaud-Belkacem, quand elle est à l'Assemblée, elle passe son temps à dire « Regardez ce qui arrive en Espagne, il faut sécuriser, renforcer », un peu comme là, le débat actuel sur « il faut passer dans la Constitution », parce que quand on voit, comme le disait bien Simone Veil, qu'il suffira d'une crise pour que les droits des femmes soient remis en cause, voilà, faut être toujours vigilant sur ces questions. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la loi Najat Vallaud-Belkacem? En fait, le contre lequel elle voulait lutter, c'est de l'entrave à l'IVG, mais numérique, parce qu'il y avait plein de sites qui, quand on cherche avortement ou quand on cherchait avortement, ont tombé en fait sur des sites anti-IVG. Et elle voulait lutter contre ça.
Qui n'avaient pas l'air d'être des sites
anti-IVG.
Qui ne ressemblaient pas à des sites anti-IVG.
Exactement.
Voilà le principal info.IVG. Vous êtes enceinte, vous envisagez l'IVG, voilà.
Et ça va entraîner une énorme mobilisation des anti-IVG avec la création de la marche pour la la vie, hein, qu'on a toujours et qui s'est ensuite, qu'on a retrouvé lors des derniers débats. La première, hein, qui, alors voilà, donc ça c'est un des extrêmes, et qui disait, voilà, au nom de la liberté d'expression, on a bien le droit d'avoir nos sites, etc. Alors elle a dû céder sur certains éléments pour la loi Najot-Belkacem, mais il y a eu création d'un site officiel d'information qui permet d'avoir... bon, il y a eu une passe d'armes aussi avec l'UMP parce qu'ils voulaient dérembourser l'IVG. Bon, mais là, heureusement, ce n'est pas passé. Ils étaient soutenus par le programme. Et donc, les suivants, mais comme là, il y a...
Alors, ce qui apparaît à travers ton récit, c'est quand même que ça a été une lutte en général victorieuse hein, au Parlement depuis 1975. Mais enfin, toujours une lutte, quoi. C'est-à-dire
et
que
une
les...
lutte parlementaire dans l'hémicycle et une lutte dans la rue. Hein. Voilà. Il ne faut jamais oublier le rôle des associations et des femmes qui ont femmes et des hommes aussi. J'en ai mis un exprès pour qu'on voit qu'il y a aussi des hommes.
C'est-à-dire que les adversaires n'ont jamais désarmé. Alors on va essayer de voir si ça, les conditions du débat ou du combat ont changé à travers donc la dernière tentative, celle que à des titres divers vous avez porté toutes les deux. Sur ce plateau. Alors, ce rapport, Cécile Mucchiotti, que vous avez porté avec d'ailleurs une parlementaire socialiste aussi, dans quelles conditions il naît? Pourquoi tout d'un coup vous décidez de consacrer du temps et de l'énergie à faire un rapport sur l'état de l'IVG en France?
À la délégation aux droits des femmes, on avait dès le départ envie de creuser ce sujet parce que lorsqu'on est... militante féministe, on a toujours entendu que ce parcours vers l'IVG est un parcours du combattant. Maintenant, il fallait qu'en tant que députée, nous puissions comprendre pourquoi beaucoup disaient que c'était un parcours du combattant. Et c'est à partir de là qu'on a décidé d'enclencher ces travaux-là et qu'on les a même poursuivis dans le temps, puisque c'est une mission parlementaire qui a duré 18 mois, puisque le Covid est arrivé, le confinement est arrivé, et que nous nous sommes dit qu'il était fondamental de venir y incorporer cette notion d'isolement particulière liée au confinement, et qui allait donc encore plus rendre difficile cet accès-là. Et là, évidemment, nos travaux nous ont menés sur des... pas des découvertes, parce que finalement, on connaissait cette petite musique, mais sur des récits qui donnaient froid dans le dos, quand on sait que nous sommes aujourd'hui, enfin à l'époque, on était en 2020 et qu'on ne peut pas imaginer en être toujours là à ce moment-là.
Mais alors quels sont ces récits qui vous... Alors c'est pas des découvertes si vous le dites, mais quels sont ces récits qui vous donnent froid dans le dos?
Ce sont ces femmes qui vont être malmenées par des associations qui leur faisaient croire qu'elles allaient les accompagner sur une IVG et qui vont rentrer dans le quotidien de ces femmes, qui vont apprendre à connaître le nom de leur conjoint, à leur laisser des messages sur le répondeur avec des pleurs de bébé et des récits mais qui étaient, mais, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, mais complètement hallucinant. Et c'est là qu'on s'est dit, voilà, il faut qu'on travaille nous aussi sur cette notion d'accès à l'information et d'évacuation de la fausse information, d'où l'idée de créer un répertoire unique, et ce que nous avons pu voter dans la loi. Et puis nous avions aussi des femmes qui étaient malmenées par des gynécologues, principalement en ville, qui faisaient faire dès le premier rendez-vous en cabinet une échographie en montrant les images à la femme sans le lui demander, en faisant écouter le cœur du bébé sans le lui demander. Et c'est là où il faut mettre un stop, un holà, rappeler les règles, rappeler le rôle de chacun et renforcer nos textes de loi, parce que c'est inhumain de faire vivre ça lorsqu'on n'a pas fait le choix.
Ces pratiques que vous découvrez, vous arrivez à établir si c'est des pratiques de masse ou est-ce que ce sont des pratiques minoritaires, voire ultra-minoritaires parmi les gynécos?
Alors c'est compliqué d'avoir des statistiques, ça a été de toute façon les chiffres dans ce rapport parlementaire, c'est vraiment le nerf de la guerre. En revanche, ce n'est pas ultra minoritaire, parce que dès qu'on ouvre la boîte de Pandore, dès qu'on donne la parole aux femmes, eh bien on se rend compte que peu importe le territoire, peu importe l'origine sociale, eh bien on va avoir régulièrement ce récit-là d'avoir été malmené, en tout cas de ne pas avoir eu le choix lorsqu'on était face à son gynécologue.
D'accord, mais alors pour résumer vos 18 mois d'enquête, ce que vous découvrez, c'est que le principal obstacle, c'est ce que vous venez de nous dire, est plutôt d'ordre psychologique, que ce soit du fait de militants anti-avortement qui essayent si je comprends bien, d'établir une espèce d'emprise psychologique sur les femmes qui souhaitent avorter, ou de la part des gynécos, plutôt que des obstacles matériels, d'accès matériel à l'avortement, ou éventuellement même des obstacles financiers. C'est plutôt de cet ordre-là, si je vous entends bien.
Bah alors non, parce que les obstacles aussi en termes d'offres sur le territoire, ils sont réels. Les obstacles liés au financement, ils l'étaient aussi. C'est pour ça qu'on a fait voter le tiers payant sur le projet de loi finance de la sécurité sociale. Mais il y a aussi, et on en a un peu parlé, la question de la douleur. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte aussi que la douleur ressentie par les femmes n'était très rarement prise en compte. Et donc, il a fallu aussi qu'on aborde ce sujet pour rappeler que quand vous avez mal quelque part et que vous allez chez le médecin, on va traiter votre douleur. En revanche, quand il s'agit de l'IVG, eh bien, on va peut-être moins prendre en considération cette donnée-là et peut-être ne pas donner les traitements antidouleurs nécessaires et en adéquation avec ce que l'on ressent.
Mais alors, à vous écouter, on a l'impression, par exemple, que des médecins qui se rendraient coupables de cette pratique le font de manière intentionnelle, avec une espèce d'arrière-pensée punitive envers les femmes qui souhaitent avorter. C'est ce que vous avez aussi établi ?
Oui, il faut oser le dire. Et c'est pour ça qu'il faut faire respecter la loi. On change des choses dans la loi quand on la réécrit, quand on l'amende, quand on la modifie. Mais si on n'a pas des garants à l'échelle des territoires qui vérifient la bonne application de la loi, eh bien on ne s'en sort pas. Et typiquement là-dessus, un praticien a le droit de refuser de pratiquer une IVG et il n'y a aucun problème avec ça. En revanche, il a obligation à respecter la règle et à réorienter. Et en aucun cas, il ne peut imposer de quelconques examens aux femmes. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et là, ça se vérifie en dehors, si vous voulez, du travail parlementaire stricto sensus. Même si la bonne application de la loi fait partie aussi, normalement, des compétences du député.
D'accord. Alors, ça, c'est le rapport. Et puis après, il y a un moment où il faut traduire ce rapport dans une proposition de loi concrète avec des articles, des mesures. Et alors là, c'est là où vous arrivez dans le jeu.
Alors, pour être précise, j'avais déjà été alertée par le rapport du Haut Conseil à l'égalité de 2017, qui effectivement faisait un constat assez sombre, justement, de l'accès à l'IVG pour toutes les femmes sur tout le territoire, en émettant, je crois, une dizaine ou 11 recommandations, justement, en notamment l'allongement du délai, la suppression de la clause de conscience, on va y revenir à l'instant, et un certain nombre de recommandations. Ensuite, effectivement, moi, en 2020, plein confinement, j'ai été alertée par le planning familial et Rada Hatem, présidente de la Maison des femmes de Saint-Denis, qui m'expliquait qu'elles avaient des appels de femmes, alors beaucoup moins d'appels, et surtout des appels de femmes qui culpabilisaient. Culpabilisaient parce que la France était confinée, parce que les services d'urgence étaient surchargés, et elles culpabilisaient d'appeler pour un avortement. Et donc, on s'est dit, effectivement, alors que ce soit à l'Assemblée nationale ou côté Sénat avec Laurence Rossignol, on a déposé chacune des amendements au projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire visant à allonger provisoirement le délai, à supprimer la clause de conscience ou pratiquer les IVG médicamenteux jusqu'à 9 semaines. De mon côté, à l'Assemblée nationale, lecture stricte, mes amendements ont tous été déclarés recevables.
Irrecevables.
Au Sénat, ils sont passés, donc ils ont été rejetés. Ensuite, nous avons eu un débat le 8 juin sur la politique d'IVG. Je vous dis ça parce que c'est important. Politique publique d'IVG. Et là, moi, je suis intervenue. Olivier Véran est monté au banc à la tribune pour expliquer la position. Il a expliqué clairement, et ça, c'est vous pourrez le regarder dans le PV, puisque j'ai tout relu là, que ce sujet-là ne pouvait pas être traité, l'avortement, ne pouvait pas être traité par voie d'amendement. Donc, d'accord. C'est vrai qu'à ce moment-là, je décide, j'appelle ma collaboratrice, je lui dis, bingo, on va le prendre en mot, on va déposer une proposition de loi, en s'inspirant de ce qui avait été fait par le HCE, et de réfléchir le Haut Conseil à l'égalité. Et effectivement, ensuite, ça a été mûrement abondé par les travaux de Cécile Muscotti et Marie-Noëlle Battistel, de la Délégation de droits des femmes. Et donc, bingo,
les travaux dont on vient de parler, qui dressaient effectivement des
constats qui ne faisaient que objectiver en plus la situation. Parce que parfois, on nous disait, mais non, vous êtes complètement dans le fantasme, dans un délire féministe de militante, vous croyez qu'il y a des loups sombres partout. Non, le droit à l'avortement est un droit garanti, vous inquiétez pas, Madame Gaillot, ça va bien se passer. Quoi.
Qui vous dit ce discours-là?
Par exemple, sur Twitter, on n'arrête pas de nous dire ça.
Mais
c'est aussi les républicains.
Par exemple, dans le groupe LREM, alors dont déjà à l'époque, vous n'y êtes plus.
Non, moi, je ne suis plus depuis mars 2020.
Vous êtes parti en 2020, vous êtes une dissidente.
Oui.
Mais c'est quand même à vous qu'on transmet le fardeau.
Ah, moi, non, j'ai pris le fardeau.
Vous prenez le fardeau, d'accord.
C'est moi qui ai pris le fardeau.
Et alors ouais. Justement, vous prenez le fardeau.
C'est pas le fardeau, d'ailleurs, c'est avec plaisir.
Oui, je ne sais pas comment dire, la mission.
La mission.
Ouais. Et alors, comment ça se passe avec LREM?
Très bien.
Vous êtes soutenu?
Oui. Ah oui, non, mais ça s'est très bien passé. Et puis avec Cécile Muscotti, qui est ici, Marie-Noëlle Battistel, et puis l'ensemble de la délégation aux droits des femmes, Marie-Pierre Rixin, enfin, vraiment, on a travaillé au concert, parce qu'on a bien vu qu'on avait, sur ce sujet-là, on avait un objectif commun et il fallait réfléchir
à la base, ok, mais à la direction du groupe LREM, Castaner et tout, ça se passe bien.
Alors, effectivement, Christophe Castaner a été un soutien, alors peut-être pas assez, à mon goût, pas assez présent dès le départ, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut quand même dire que c'est parce qu'il y a eu un soutien de la majorité que ce texte aussi est arrivé jusqu'au bout, parce que moi, toute seule, avec mes petits bras, j'aurais pas pu réussir ça. Sauf qu'on pourrait passer des heures à expliquer comment fonctionne une navette parlementaire, mais je peux vous assurer que c'est quand même quelque chose de très technique et très politique. Et donc, on avait besoin. Moi, j'avais besoin du soutien de la majorité. On l'a eu. On aurait eu besoin, effectivement, de la parole du chef de l'État en soutien. Bon, on ne l'a pas vraiment eu, mais le président de la majorité, le président de groupe a soutenu.
Là, il faut être très précis. Vous dites on aurait eu besoin du soutien du chef de l'État,
non,
on l'a pas eu.
Alors,
je voudrais juste qu'on écoute donc Emmanuel Macron qui s'est exprimé à plusieurs reprises donc sur l'IVG, dont une fois en des termes qui ont surpris et choqué beaucoup de femmes partisanes de l'IVG. On écoute Emmanuel Macron.
Sur ce qui est de l'allongement de 12 à 14 semaines pour le délai de l'IVG. D'abord, je l'ai dit, je le répète ici, j'ai toujours défendu avec force le droit des femmes à disposer de leur corps, et donc le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Et ce droit qui est parfois battu en brèche par certains en Europe et dans le reste du monde, je continuerai à me battre pour le défendre partout. Mais ce que j'ai essayé de dire, c'est que c'est un droit, mais c'est toujours un drame pour une femme.
Qu'est-ce qu'il en sait ?
Alors, pourquoi cette phrase « c'est toujours un drame pour les femmes » est-elle mal ressentie par un certain nombre de féministes ?
Parce que c'est faux. Parce que c'est faux, parce que une femme ou toute autre personne d'ailleurs qui vient nous voir pour un avortement, en fait, elle a besoin d'un avortement. Elle a réfléchi, elle sait ce qu'elle veut, et en fait, parfois, elle a dû se battre pour arriver jusqu'à nous. Et quand elle arrive au planning et qu'on lui dit, c'est possible, et c'est aujourd'hui ou c'est jeudi ou c'est la semaine prochaine, elle est contente. C'est une solution pour elle. Et nous, ce qu'on revendique, en fait, c'est le droit aux personnes d'avoir leur propre ressenti de cette expérience-là. C'est inacceptable que le président ne...
Mais est-ce qu'à l'inverse de ce que dit Emmanuel Macron, on peut dire « ce n'est jamais un drame » ?
Eh bien, c'est ce que c'est. C'est ce que c'est pour les personnes. Et en fait, si elles font ce choix-là... Alors,
Vous avez une pratique...
Je vais vous dire, la plupart du temps, ce n'est pas un drame. Parfois, c'en est un. On le voulait, cet enfant, mais le conjoint ne voulait pas. Parfois, on a beaucoup de personnes qui ne pensaient pas en arriver là, dont les principes n'étaient pas ceux-là, ces personnes-là, il faut accepter qu'elles aient leur propre chemin, leurs propres ambivalences et leurs propres décisions. Enfin, moi, ce que je trouve intéressant avec le débat sur l'avortement, c'est qu'on nous prétend que c'est bien ou mal. C'est jamais bien ou mal. Ça fait partie de la vie des personnes. Et donc, parfois, c'est clair, net et évident. J'ai 19 ans, je veux continuer mes études et il est hors de question que j'aille au bout de cette grossesse. Et parfois, c'est plus compliqué. J'ai déjà 3 enfants. Un quatrième grèverait trop le budget familial. Ça m'embête. Je les aime bien, mes gamins. J'aurais bien vu un autre bébé arriver dans la famille, mais c'est pas possible. Et
il y a toute une palette,
de situations, de réactions.
Dire que c'est pas un drame, ça veut pas dire que c'est comme d'aller prendre une barbe à papa. Enfin, évidemment que. Mais drame, le mot. En revanche, il y a un drame quand on veut avorter et qu'on peut pas avorter.
Tout à fait. Ça, c'est un drame. C'est ça qui est un drame. C'est d'être obligé de mener une grossesse à son terme alors qu'on ne le voulait pas. Ça, c'est un drame. La situation de la jeune étudiante de 19 ans qui veut poursuivre ses études, qui se projette et qui aura peut-être, certainement peut-être ou peut-être pas des enfants plus tard, ça sera son choix. Et qui là est obligé, il serait obligé de garder cet enfant. Là, c'est un drame. Et ce qui est un drame, je dois juste rajouter, ce qui est un drame aussi, c'est les avortements qui sont, les femmes qui sont mal accompagnées. Ça, c'est un drame. Parce qu'on a évoqué, et Cécile a évoqué le sujet des médecins un peu réfractaires, je pense qu'il y a un vrai sujet en France, qui est la clause de conscience spécifique. On est seul en France, dans le monde, à avoir ce type de législation. C'est-à-dire que chaque médecin, chaque professionnel de santé aujourd'hui en France a une clause de conscience. Il peut refuser de faire un acte ou pas.
Ça, c'est la clause de conscience générale.
Tout le
médecin.
D'accord. Okay. Et puis, Mathilde l'évoquait, contexte historique de 1974, il a fallu faire des compromis. Un des compromis, c'est ajouter la clause de conscience générale, une clause de conscience spécifique.
Une surclause de conscience.
C'est la cerise sur le gâteau, vous voyez, la double couche. Ouais. Vous voyez. Donc,
alors là, j'ai du mal à comprendre. Enfin, je veux dire, à partir du moment où un gynéco qui ne veut pas pratiquer un avortement a déjà sa, j'allais dire, sa première clause de conscience de série. Pourquoi il lui faut une option?
Il faut une option, c'est une garantie, c'est comme une garantie supplémentaire. Ça fait de l'avortement un peu un acte à part. Ça veut dire que ce n'est pas tout à fait la même législation. Vous voyez, c'est quand même, on a fait une petite niche, rien que pour la LVG, rien que pour le droit des femmes. Donc je pense que cette clause de conscience, on a essayé de la faire supprimer, on n'a pas réussi. J'engage les futurs parlementaires à revenir sur ce sujet, parce que faire de l'IVG un acte à part, eh bien, ça stigmatise les femmes.
On n'a pas réussi, c'est-à-dire qui s'y est opposé concrètement? Vous me l'avez raconté au téléphone, c'est-à-dire que Olivier Véran vous a dit...
Olivier Véran était opposé, il avait demandé l'avis du Comité national d'éthique qui lui aussi était opposé. Et donc,
opposé à la suppression.
À la suppression
de la double cause
de conscience. Ouais. Donc cet article n'a pas été adopté. Donc du coup, la clause de conscience est encore... dans notre...
Mais alors, du fait de l'opposition personnelle du ministre de la Santé ou du fait que certains groupes, lobbies ou intervenants au débat...
Il y a eu un amendement des Républicains qui a été adopté. Je pense que Cécile, tu pourras raconter l'histoire de cet amendement qui a été une surprise. En tout cas, ça a été une surprise pour moi. La majorité l'a voté et donc faisant tomber cet article. Alors, je sais que je crois comprendre que c'était un compromis comme en 1974. Moi, je regrette ce compromis parce que je pense que ça aurait pu être une étape vers plus de progrès pour les femmes.
Alors, pour résumer sur Emmanuel Macron, vous dites qu'il n'a pas soutenu. Il n'a pas soutenu, mais il n'a pas fait obstruction. En gros, il a été neutre dans l'histoire.
Oui, je pense que là, si vous voulez, parfois on parle du rôle des parlementaires, on dit qu'ils ne servent à rien. Je pense qu'on est sur un rapport parlementaire, une initiative parlementaire, un groupe parlementaire et des groupes parlementaires qui jouent leur rôle, dans chacune des chambres, qui vont aller jusqu'au débat, qui vont aller jusqu'à la navette et qui vont jouer leur rôle de force de proposition et travail d'ailleurs avec les associations. Je veux dire, moi, je vais beaucoup travailler. Et donc, toute cette force de mobilisation a permis de faire progresser ce droit. Et c'est bien parce qu'il n'y a pas que les chefs de l'État qui décident, mais il y a aussi et surtout les parlementaires, quand ils sont force de proposition et qu'ils font bloc sur ce sujet.
Voilà. Et comme quoi, ça existait déjà dans la législature précédente, en dépit de l'image parfois colportée de Playmobil, le doigt sur la couture du pantalon, etc. C'était pas tous des Playmobil, vous n'étiez pas tous des Playmobil en fait.
Ah non, mais je pense que moi je ne dirais pas ça du tout. Je pense que il y a des fonctionnements. Le fonctionnement de la Ve République est un fonctionnement qui fonctionne sur une majorité soudée, qui peut. Moi, ça m'a pas effectivement convenu, donc j'en suis sortie. Mais aucun des députés que je connais, en tout cas, n'était un député Playmobil. Ils ont tous voulu jouer leur rôle à leur échelle.
Cécile Miquiotti, sur cet amendement LR, là, vous avez des choses dont parlait Alban Gaillot ?
Non, mais c'est effectivement un point de négociation avec le ministère de la Santé pour pouvoir aller au bout de l'examen de ce texte et faire voter cette proposition de loi sur l'accès à l'IVG. Pour avoir cette majorité nécessaire, nous devions reculer sur un point qui était celui de la suppression de la double clause spécifique de conscience. Mais l'intérêt pour nous était de faire voter ce texte pour en libérer véritablement les forces pour faciliter l'accès. Mais permettez-moi juste une chose... Oui, on peut critiquer, chacun le fait, les mots du président de la République, mais je tiens tout de même à rappeler, parce qu'il faut rendre ce qui appartient à César, c'est que c'est la majorité présidentielle qui a fait en sorte que ce texte soit voté, c'est notre président de groupe Christophe Castaner qui nous a permis d'aller au bout de l'examen, et aucun autre groupe parlementaire n'y avait réussi. Le groupe du Parti Socialiste, je tiens à le rappeler, avait retiré la veille au soir, l'examen de ce texte-là, bien en amont. Donc,
attendez,
voilà,
moi attendez, je veux bien... Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire du PS, là ? Qu'est-ce qu'ils avaient retiré ? Pourquoi ils l'avaient retiré ?
Si vous voulez, il y a une organisation dans l'examen des textes à l'Assemblée nationale. Chaque groupe parlementaire a ce qu'on appelle une niche dans laquelle il dépose des textes qu'il veut faire voter. Le groupe socialiste avait une niche bien avant la nôtre, celle du groupe majoritaire, et donc avait inscrit l'examen de la proposition de loi sur l'IVG.
De la proposition de Gaillot.
Oui. Exactement, ouais. Bien sûr. Bien
c'est
sûr.
Un peu compliqué, mais parce que...
Et la veille au soir... le Parti socialiste, pour des raisons qui les regardent, pour prioriser d'autres textes, parce qu'il faut savoir qu'une niche ne dure qu'une seule journée, hein, que l'examen se termine à minuit du texte choisi, voilà. Décide de choisir un autre texte que celui de l'IVG. C'est leur choix, ça les regarde.
D'accord.
Mais voilà, la majorité présidentielle l'a réinscrit à son ordre du jour et a fait en sorte que ce soit voté.
D'accord, mais ce n'était pas par, on va dire, hostilité à l'IVG. C'est parce qu'ils ont estimé qu'ils avaient d'autres priorités ce jour-là sur cette niche-là.
Alors, parce qu'il faut rappeler que les oppositions ont une journée pour débattre de leur texte, une ou deux journées par an. Cette proposition de loi, elle était émise d'une députée qui avait plus de groupe parlementaire.
Vous.
Moi, Alban Gaillot. Et donc le Parti socialiste, le groupe socialiste de l'époque, a accepté d'héberger cette proposition de loi dans sa niche parlementaire. Il se trouve que sur cette proposition de loi, il y a eu obstruction des députés, les Républicains, qui ont déposé plusieurs centaines d'amendements. Il faut savoir qu'effectivement, une journée de niche, ça commence à 9h, ça termine à minuit. On ne dépasse pas. Quand vous avez un groupe socialiste qui a l'IVG plus ses textes, donc l'IVG qui vient d'un autre groupe, hein, plus ses textes à lui, ses combats politiques à lui, et ce texte IVG qui, de toute façon, ne serait pas passé, d'accord ? Parce que obstruction. Donc du coup, ils ont décidé, et je soutiens vraiment le groupe socialiste là-dessus, qui... a permis de faire poursuivre la navette parce que c'est encore le groupe socialiste au Sénat avec Laurence Rossignol qui a permis que la navette se poursuive puisque c'est ce groupe qui qui a inscrit au Sénat le texte.
Ah bon, on va peut-être pas poursuivre trop longtemps, mais dans le Var, on n'est pas d'accord hein, sur le.
Non, parce que pour mettre fin à une navette parlementaire, l'examen du texte, c'est pas parce que le Sénat a décidé d'eux, parce que le Sénat a décidé de ne pas examiner le texte. Et la navette parlementaire, si vous voulez, elle peut continuer vitam aeternam et puis finir les recoins de l'Assemblée ou du Sénat. C'est parce que le gouvernement décide, à un moment donné, d'inscrire à l'ordre du jour un texte qu'on met fin à la navette et qu'on peut aller au bout de l'examen d'un texte. Alors c'est très technique,
Je suis d'accord avec toi sur la poursuite. Je parlais juste des premières étapes après là, mais effectivement, pour arrêter une navette, il faut une décision et c'est bien effectivement le gouvernement qui l'a décidé.
Si on peut revenir à Arrêt sur image deux secondes avant la fin de l'émission, on a vu passer dans les écrans une image de cintre dans les manifestations pro-IVG. Elle vient d'où, cette image de cintre ?
Alors là, c'est des manifestations aux États-Unis. On les a vues dans les manifestations françaises aussi, je pense, parce qu'il y a une grande manifestation samedi, 2 juillet, auquel j'invite tout le monde à venir. Donc les cintres sont très présents. Alors c'est un symbole...
On les a vus dans des caricatures.
Oui, ça, on va y revenir. C'est un symbole des pro-choix, qu'on peut appeler pro-choix ou pro-IVG, et qui apparaît vraiment en Espagne en 2014. En fait, donc je vous l'ai dit, en Espagne en 2014, il y a un risque de remise en cause de l'IVG, et on a vu sortir contre la loi du ministre de la Justice des Espagnols avec des 5 nunca más, donc plus jamais. Et en fait, ça a suscité une mobilisation internationale, notamment en France, avec une très grande manif en février 2014, c'est très impressionnant, où on avait ce retour du cintre. Ça s'est suivi en 2016.
Mais attendez juste, Mathilde, pourquoi le cintre ?
Alors, je vais y revenir maintenant ou enfin, je peux.
Bah, oui, là.
En fait, parce que quand. Enfin, il faut savoir comment on avortait avant que. Enfin, quand une femme avorte seule sans aide médicale, et qui plus est avant qu'il y ait les techniques par aspiration, mais qui réclame quand même une aide médicale, en fait, pour avorter, on met un objet fin, long et rigide dans l'utérus, ça crée une infection, et l'infection déclenche la fausse couche. C'est ça ?
pas nécessairement une infection, on espère pas d'infection, justement.
Mais ça déclenche, mais
ça perturbe l'utérus, qui
va expulser l'œuf. Et en milieu, enfin les faiseuses d'anges, comme on les appelait, elles mettaient des sondes médicales, mais quand une femme n'arrivait pas à trouver d'avorteuse, eh bien elles fabriquaient leur propre tige, et donc elles prenaient des cintres qu'elles dépliaient. Ou alors elle prenait des tringles à rideaux, ou alors elle prenait des baleines de parapluie, ou alors elle prenait du fil de fer, du fil électrique. Benoît de Goult raconte dans ses souvenirs qu'elle a avorté et avorté sa sœur avec du fil à pêche, du gros fil à pêche. Donc elle trouvait ça, c'était les moyens du bord, c'était les solutions. C'était extrêmement dangereux, avec des risques de perforation utérine, des hémorragies qui pouvaient évidemment être mortelles. L'infection... qui pouvait devenir complètement hors contrôle et entraîner des septicémies, donc des risques de stérilité et de mort. Enfin, faut lire l'événement d'Annie Ernaux, faut lire Parole d'avorter de Xavier Gautier. Tu veux rajouter quelque chose ?
Non, plus tard.
Ok. Et donc voilà, le cintre, il rappelle l'horreur des avortements clandestins. Et il faut savoir qu'au moment où, en 2014, les Espagnols sortent le cintre, au même moment, les Suisses, qui eux, elles, se battent pour maintenir le remboursement de l'avortement par l'IVG, elles, c'était les aiguilles à tricoter. Mais bon, c'est le cintre qui est plus resté. Et ce qui est resté, donc, en 2016, il y a eu une grande campagne du planning familial, affiches et réseaux sociaux. Moi, j'avais participé à la campagne sur les réseaux sociaux avec le slogan « Ceci n'est pas un cintre ». Donc, on va le voir. Voilà. Et notamment, donc, des anonymes ou des personnalités, hommes et femmes, qui s'étaient fait photographier avec des cintres et « Ceci n'est pas un cintre ». Vous reconnaissez Pénélope Bagieu. Donc, voilà. Et on a ça aussi, même, il y a beaucoup d'artistes. Il y a une très belle exposition qui s'appelle « On Abortion » d'une artiste espagnole qui s'appelle Laia Abril et qui dénonçait l'avortement clandestin. Alors, en Argentine, on était avant que les Argentines arrachent le droit à l'avortement. Et pour représenter et dénoncer les avortements clandestins, elle avait mis un tas de cintres au milieu d'une pièce. Et je me souviens y être allée, il y avait une maman avec sa jeune ado, et l'ado, elle disait « Mais c'est quoi les cintres ?» Et j'ai vu comment la mère était embêtée d'expliquer, parce que...
Vous vouliez ajouter quelque chose, Marianne Niozzi ?
Sur la parole de M. Macron, si vous me permettez. Je voulais dire deux choses. On a parlé beaucoup d'inégalités de l'accès, de la difficulté de l'accès, et ça se croise avec les inégalités sociales. Et donc ça, c'est vraiment important de le dire. Plus c'est difficile d'accéder, plus c'est les personnes pauvres, les personnes en difficulté, qui vont avoir du mal à accéder. On l'a beaucoup dit sur les États-Unis, mais c'est aussi le cas en France. C'est-à-dire que si on doit prendre sa journée pour aller très loin, accéder, en fait, c'est les personnes les plus défavorisées qui vont avoir du mal à avorter. Donc c'est une chose. Oui. Et puis, l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, bon, je ne suis pas une grande spécialiste des subtilités constitutionnelles, mais si M. Macron décide de porter cette inscription, en fait, de l'avortement dans la Constitution, ça nous simplifiera quand même beaucoup les choses. D'une part, parce que c'est une parole forte, parce que symboliquement, on doit arrêter, en fait, de laisser un flou flotter sur est-ce que c'est quelque chose dont on peut discuter ? Non, en fait, le président de la République doit dire que c'est quelque chose qui doit être inscrit et que justement, en fait, nous, ce qui nous inquiète et ce sur quoi on a vraiment envie d'insister, c'est que cette inscription dans la Constitution, elle doit être pleine et entière, elle doit être portée très fortement, elle doit aussi inclure la contraception, puisque sans contraception, en fait, on est un peu embêté.
Marianne Niozzi, au risque, qu'on soulignait tout à l'heure, d'une campagne médiatique acharnée, d'avoir des dizaines d'heures consacrées à des dizaines de Ludovine de La Rochelle, qui vont débiter des dizaines de fake news du style de celles qu'on a entendues en début d'émission, à ce risque-là ?
Alors, justement, en fait, ce risque-là, il doit être contrevenu par un engagement fort de la part du gouvernement.
Pensez que le... Oui, mais à travers quoi le gouvernement peut s'opposer aux fake news du style de
celle-là ? Je crois qu'il y a une subtilité entre la proposition de loi et le projet de loi. Il me semble, je ne suis pas non plus une constitutionnaliste, mais il me semble que quand c'est une initiative parlementaire, il y a forcément effectivement l'accord des deux chambres dans le même terme et le référendum. Et il me semble que si c'est un projet de loi, il n'y a pas de référendum.
Le président peut squeezer le référendum en réunissant le congrès à Versailles avec l'Assemblée.
Ce n'est pas gagné non plus, mais on pourrait.
Ce que vous vouliez dire, c'est que vous attendiez que l'initiative. Ce que vous voulez dire, c'est que vous attendiez que l'initiative vienne du président, c'est ça ?
Tout à fait.
D'accord. Oui, à vous.
Oui, non, mais simplement, oui, effectivement, vous aviez raison. Et puis, il faut 3/5 oui. de l'ensemble du oui. Parlement. Et je tiens à rappeler qu'avec les résultats des dernières élections législatives, et quand on regarde la majorité du Sénat, oui. eh bien, même si le président de la République appelait une inscription oui. sur la Constitution, permettez-moi d'avoir de nombreux doutes, mais que le sujet soit porté, que oui. les gens prennent conscience de l'importance de se déplacer pour voter, oui. parce que quand plus d'un Français sur deux ne se déplace pas pour voter aux élections législatives, eh bien voilà oui. les conséquences que ça peut porter. Voilà. Et permettez-moi, mais je suis attendue sur une autre réunion et je suis obligée
mais
de...
Mais c'est terminé, on a fini, merci de nous avoir consacré votre temps, on vous libère. Pour être bien clair, vous appelez Emmanuel Macron...
à déposer un projet de loi.
À déposer oui. un projet de loi, je ne sais pas oui. si lui peut le faire, en tout cas le gouvernement peut oui. le faire, oui. Voilà.
À voir, hein, on va ouais. continuer à discuter de quelles sont les meilleures façons de porter, mais pour nous, c'est vrai que déjà sur le plan symbolique, puisqu'on a beaucoup oui. abordé les tergiversations, ouais. on a besoin d'une parole claire.
Merci. À
et
tout...
manifestation samedi.
Et à tout... On l'a samedi. Dit à toutes les quatre. Merci de nous avoir suivis. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses dans cette émission et dans la préparation de cette émission sur le... Les réticences de tous ordres jamais éteintes sur ce sujet. À la semaine prochaine.